Le message que je vais vous partager aujourd'hui fait partie d'une série que nous faisons à Jodogne, où nous sommes dans l'évangile de Jean. Et je me suis dit, je vais continuer parce qu'en plus, suite au message, en général, on approfondit le message à l'étude. Et donc, pour pouvoir rester dans ce qu'on est en train de faire, je vous partage un petit peu la suite de notre périple. Donc, la dernière fois, on était dans Jean chapitre 7, où on a vu un petit peu les regards qui peuvent parfois conduire nos vies. Et aujourd'hui, nous allons plutôt voir les paroles qui peuvent aussi parfois nous conduire ou nous faire du mal, mais aussi les paroles que le Seigneur veut nous donner. Et donc, le thème d'aujourd'hui, c'est Pierre ou amour. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire qu'il y a dans Jean chapitre 8, mais nous allons la lire ensemble. Je ne l'ai pas affichée, donc si vous avez vos Bibles, c'est bien, ça fait l'exercice pratique. On dit souvent qu'on ne prend plus sa Bible vu qu'on projette. Donc, je vous invite à lire dans Jean chapitre 8. Nous allons lire les versets 1 à 12. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ?» Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors c'est un texte fort connu et je me suis rendu compte par rapport à la présidence qui a eu lieu tout à l'heure que cette femme était, elle, je pense, aussi dans une situation difficile. Imaginez, elle vient d'être prise en flagrant délit d'adultère et elle ne vient pas d'elle-même à Jésus, c'est ses accusateurs qui l'amènent à Jésus. Et vous savez le sort qui l'attend. Elle risque de mourir. Je pense que c'est une situation assez difficile. Elle sait qu'elle a fauté, elle est prise en délit, donc elle ne pourrait même pas discuter, dire oh, le jugement est déjà fait. Donc elle sait ce qui l'attend là en ce moment, elle est près de Jésus, et elle se dit je vais mourir. Alors tout à l'heure on a parlé qu'il y a toujours de l'espoir, là je ne sais pas si elle avait de l'espoir elle. En plus elle se retrouve face à Jésus qui se dit envoyé de Dieu, elle va peut-être dire il va en rajouter une couche quoi. Il est au courant peut-être, elle sait qu'il voit les cœurs, elle est au courant de qui est Jésus. Donc la voilà dans une situation bien compliquée. Et en plus, il demande à Jésus de pouvoir intervenir. Et là aussi, c'est une situation assez interpellante, c'est que ces personnes qui sont des religieux, des représentants de l'époque, vont à la fois mettre en défaut cette femme, et en même temps, Jésus. Imaginez les mauvaises intentions qui sont dans leur cœur. Est-ce qu'on se rend compte de leur cœur? Ils veulent à la fois mettre cette femme et la faire mourir, donc il y a vraiment envie de mort sur cette femme. Et en même temps, Comment pouvoir au final aussi mettre à mort Jésus? Parce que c'est ce qu'ils veulent. Si on l'a vu la dernière fois, nous, au chapitre 7, mais le chapitre 7 commence en disant que les Juifs veulent faire mourir Jésus. Donc ils veulent en même temps que Jésus meure et en même temps que cette femme meure. Donc ils utilisent ça comme un piège atroce pour que les deux meurent au final. Et ce qui est beau dans ce passage, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour cette femme parce que, au milieu de tout ça, ce n'est pas un religieux qui s'y retrouve, mais c'est Jésus. Elle est à côté de Jésus. Et on a vu tout à l'heure avec le texte qu'on a lu dans les Lamentations de Jérémie que c'est vraiment cet espoir. Et que cet espoir de Dieu est en Christ, en fait. Et tout a été résumé là. Donc c'est déjà une partie du message est fait. Mais donc je vais aller un petit peu plus loin avec vous. J'aimerais qu'on puisse s'interroger ensemble sur justement des situations difficiles que nous pouvons rencontrer dans nos vies. Et en vous posant cette question ici, en allant un cran plus loin, c'est se poser la question, est-ce qu'il y a des situations dans l'Église avec lesquelles nous avons parfois difficile? Au final, c'est nous qui créons la difficulté. Ou peut-être nous-mêmes, nous sommes ceux qui amènent les autres à Jésus. Parce qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Est-ce qu'il y a des situations dans l'Église comme ça qui vous viennent à l'esprit? Je vous pose la question, j'aime bien l'interaction. Des situations avec lesquelles parfois on a difficile. Alors ça peut être général ou ça peut être personnel. Est-ce que vous avez des situations comme ça où vous pouvez me dire, bon, c'est clair que l'adultère, on est tous d'accord là-dessus, mais il y a parfois des choses qui sont peut-être plus simples, plus basiques. Est-ce qu'il y en a qui vous viennent à l'esprit? Des choses, on est dans l'Église, on se dit, ça me dérange quand même. Est-ce qu'il y en a? Allons-y. Lâchez-vous. Non? Oui, non? Moi, j'en ai mis quelques-unes. J'ai mis des très basiques, hein, mais s'il y en a que vous voulez aller, vous pouvez y aller. Ah, d'habitude, quand même, quoi, des choses qui ne vont pas dans l'Église, on le dit. Hein, donc, il n'y a rien qui vous vient à l'esprit? Je vous prends peut-être à froid. Hein. Non? Oui, non? Je vais vous donner quelques idées. S'il y en a qui viennent en cours, ça peut arriver. Alors, j'ai pris des choses qui peuvent être générales, mais par exemple, les gens qui arrivent en retard, ça peut déranger. Hein? L'heure, c'est l'heure, non? Hein? Alors, une autre chose, les gens qui ne s'impliquent pas. Hein? Souvent, ça c'est plus les pasteurs qui sont à râler entre eux. Oh, tu sais, les gens qui ne s'impliquent pas, oh là là, l'Église n'avance pas, etc. Vous voyez, ces gens, on a ces choses qui nous viennent, qui nous dérangent, comme ça. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent? Tant qu'on est lancé. Oui? Pardon? Les médisances, oui, dans l'autre sens. Les médisances. Le fait qu'on entend, tiens, il y en a qui parlent dans le dos de l'autre. Ouais. D'autres choses? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, donc n'hésitez pas. D'autres choses? Ça peut être général, hein, c'est pas que dans l'Église, évidemment, mais comme on est dans l'Église, j'ai pris l'exemple. Alors, si vous n'en avez pas d'autres, je vais continuer. Oui? Le choix des cantiques, je crois que c'est le suivant. J'ai mis, voilà, les gens qui chantent différemment, mais ça rejoint un petit peu. Donc, soit les choix des cantiques, soit la manière de chanter, parfois. Il y en a qui sont plus intérieurs, il y en a qui sont plus expressifs. Oui? Oui, voilà. Voilà. On a le cas aujourd'hui, je crois qu'il y a eu des chants plus anciens, il y a eu un bon choix, un bon équilibre, j'ai trouvé. C'était chouette. Il y avait des... Voilà. D'autres choses? Ça commence à s'ouvrir? Non? Alors je continue. Les enfants qui font du bruit, ça peut déranger. Si on aime être au calme, ou dans l'autre sens, pour certains, parfois c'est trop calme dans l'Église. Hein. On n'est jamais content. Hein. Le peuple qui murmure. On n'est jamais content. Alors, les gens qui ne veulent pas évoluer parfois. Les gens qui veulent, voilà, c'est très bien. Moi, je trouve que l'Église, elle est très bien comme elle est. Il ne faut pas que ça bouge de trop. Et ça peut déranger. Ou alors dans l'autre sens. Il y en a qui veulent tout changer. Qui veulent tout révolutionner. Ça peut aussi déranger. Ils veulent toujours changer. Mais il y a un moment aussi, il faut pouvoir se stabiliser. Vous voyez, c'est pas toujours évident. Hein. On a chacun nos perspectives, nos visions différentes, nos attentes différentes. Et souvent, alors, qu'est-ce qu'on fait? On va vers le Seigneur et de nouveau, on se plaint. On dit, mais Seigneur Jésus, regarde, pense à cette personne, regarde. Il veut changer les choses. Ou pense à lui, regarde, il est toujours comme ça. Oh, tu n'as pas envie de faire quelque chose? Il faudrait faire quelque chose quand même. Et on se retrouve un petit peu dans la situation de cette femme adultère avec tous ces pharisiens là autour qui l'amènent devant Jésus en disant, il faut faire quelque chose. Alors, je dis pas qu'il faut rien faire. Hein. On se comprend bien. Mais parfois, c'est ce qui guide plus nos vies. On voit plus le point noir, comme on l'a dit tout à l'heure, que la feuille blanche. Et on met le doigt dessus. Eh oui, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi, tu sais ce que j'en pense. Ça, c'est un petit peu parfois quand on est plus dans le ressentiment. Et on en arrive à ces fameuses pierres où on est prêt à jeter. Alors, c'est pas des vraies pierres, nous, en général. C'est plus des paroles, des murmures, des paroles dans le dos, parfois, des choses qui arrivent par la bouche. Des jugements, exactement. Des jugements qui peuvent venir par rapport à des situations qui ne nous conviennent pas, qui ne nous plaisent pas. Et parfois, comme j'ai dit, si j'ai pris des exemples très simples, hein, j'ai fait exprès, j'ai pas été dans des choses qui pourraient vraiment poser problème, parce que adultère, on pourrait vraiment poser la question d'un problème. Et ces pierres, voilà, ça peut être des jugements, j'ai essayé de citer quelques exemples, cette liste n'est pas exhaustive, des paroles qui peuvent être dures, donc ça peut commencer déjà dans les pensées, hein. Parfois on ne dit rien, mais on n'en pense pas moins. Ensuite, c'est les paroles dures qui peuvent arriver, soit qui sont dites dans le dos, soit qui sont dites en face, et au final, parfois même dans des attitudes silencieuses où on ne parle plus aux gens. Il y a un mur qui s'est fait, un mur de pierre, si on veut, hein, qui s'est mis entre nous. Au lieu de les jeter, on les a mises pour nous protéger, pour se protéger. Mais heureusement, en Christ, il est venu détruire ce mur à la croix. Alors là, c'est la question plus dure, et avec toi-même, comment es-tu ? Comment es-tu avec toi-même ? Est-ce que vous connaissez des situations où vous vous sentez un mauvais chrétien ? Là aussi, vous pouvez y aller, vous pouvez parler. Il n'y en aura pas d'autres après, donc c'est la dernière fois où vous pouvez parler. Est-ce qu'il y a des situations où vous dites « Oh, je suis un mauvais chrétien ?» On l'a entendu tout à l'heure dans le témoignage, où parfois on ne se sent pas digne. Justement, est-ce qu'il y a des choses clés, des exemples concrets où vous dites « Ah, là, je ne suis pas à la hauteur ?» Oui, donc dans les paroles, j'aurais pas dû parler comme ça, oui. D'autres choses ?
Ne pas visiter une personne dans le besoin.
Oui. Donc des choses qu'on n'aurait pas faites, pas dites, pas faites. Des manquements. Le fait d'avoir un doute. Ah oui, intéressant. On ne se sent plus un bon chrétien parce qu'on a douté. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent ? N'hésitez pas, même dans le fond, hein, si vous parlez fort, oui. Ne pas pardonner. On n'arrive pas à pardonner, alors on se sent pas bien. Ouais, bien. Oui. Un petit peu plus fort parce que j'ai pas entendu. Avec quelqu'un d'autre, c'est ça? Ne pas en parler ou ne pas le pouvoir le. Pardon? Ah oui, ne pas saisir les occasions pour parler de Jésus. Exact. Ah ok, super, oui. Ça c'est vrai, ça nous arrive. On est toujours dans un malaise. Est-ce qu'on aurait dû le faire, pas le faire et, oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est le moment de se. On est entre nous. Hein. Ça devrait être ça l'Église, hein, c'est de pouvoir se partager ce qu'on a difficile et de pouvoir s'encourager les uns les autres. Oui. Mm-hmm. Donc avoir plutôt un regard négatif dans ce sens-là, ouais. Ne pas arriver à être positif. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors c'est bien parce que là vous me donnez des choses qui sont du domaine du vécu. Moi j'ai pris des exemples très concrets, vous allez voir. S'il y en a d'autres qui vous viennent, n'hésitez pas. Moi j'ai mis par exemple pas lire sa Bible. Est-ce qu'il y en a que ça arrive de pas lire leur Bible? Eh oui, même au pasteur. Pas le temps, pas l'énergie. Ouais. Est-ce qu'on peut se le dire? Alors on se sent mal, hein. Ah oui, heureusement, on se sent mal. Je dis pas que, wouh, j'ai pas lu ma vie, je suis content, je suis heureux. Non, c'est pas ça. C'est le fait de, j'ai pas pris le temps, j'ai pas eu le temps, j'ai pas consacré ce temps. On peut aller un petit peu aussi dans le même ordre d'idée vers la prière. J'ai pas pris le temps de prier. Alors c'est pas forcément que j'ai pas parlé à Dieu, mais je veux dire ce temps consacré où on s'arrête, où on le consacre à Dieu. C'est juste pour lui. C'est pas dans ma voiture en train de conduire, je fais autre chose et puis je suis en train de. Puis je dis Seigneur, ah t'es là hein, quand même, je te parle parce qu'il faut que je. Non, c'est vraiment ce temps où on se dit c'est mis à part pour lui. Comme aujourd'hui, comme ce matin. Oh je l'ai pas mis, mais le fait de peut-être pas venir à l'église, d'avoir loupé un culte ou d'avoir fait autre chose, on peut se dire ah mince. Bon là c'est. Alors les mauvaises pensées, on en a parlé tout à l'heure, du doute, ça peut être le doute, mais il y a plein d'autres mauvaises pensées qui peuvent venir. On dit souvent c'est les mauvaises pensées. C'est comme un petit peu des oiseaux, des mouches. Tant qu'elles passent, chez tout le monde a des mauvaises pensées. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est qu'elles fassent leur nid ou qu'elles s'incrustent et qu'elles commencent à prendre place. Ça devient dangereux. Mais on a tous des mauvaises pensées qui passent. Ça fait partie de la, de notre vie. Mauvaise parole, on l'a dit tout à l'heure aussi.
Regarder un match de foot à la télévision au lieu de venir à la
télévision. Ouais. Ah, ça balance. C'est qui se sent mal, là? Oui. Participer au quotidien de l'Église. S'engager, on parlait d'engagement tout à l'heure, d'implication. Tout à fait. Alors, la question qui vient justement, par rapport à toutes ces choses-là, comment je me sens? Comment je me sens là derrière? Et j'ai ce mot qui est venu, alors il peut y avoir plein d'autres mots qui viennent, plein d'autres émotions aussi, mais c'est surtout l'idée de... Il arrive. Voilà. Coupable. La culpabilité qui vient se mettre en moi. Et qui me pèse. Et qui devient vite un cercle vicieux. Me sentant coupable, j'ai de mauvaises pensées. Et puis peut-être je commence à accuser les autres. Et puis j'ai plus envie de lire ma Bible parce que je me sens pas digne. Et j'ose même plus prier. Et vous voyez, c'est l'engrenage. Hein ? Au lieu de se dire on va aller dans l'autre sens et remonter de l'autre côté, c'est quelque chose qui nous tire vers le bas. Et ça devient de pire en pire. Je sais pas si vous avez connu ça. On parlait des situations difficiles. Je pense qu'on a tous aussi connu ça. Ça fait partie de tous. Et on va même aller ensuite jusqu'à chercher la petite bête. Hein. On veut chercher ce petit point-là qui nous dérange encore, qui nous gratte, qui nous embête, qu'on voudrait absolument retirer dans nos vies. On cherche toujours et au final, on reste dans cette culpabilité. Et on n'arrive plus à voir ce que tout à l'heure le groupe a essayé de nous amener, les bienfaits de l'Éternel. D'où vient le problème? Quel est le problème au fond dans tout ça? C'est qu'au départ, notre cœur s'est endurci. La vie, les choses, les circonstances, le péché fait que déjà à la source, et on le voit dans Jacques, le problème est là. C'est le cœur qui est dur. Et d'un cœur dur, qu'est-ce qui peut naître? Souvent, que des paroles ou des pensées qui sont dures. Et souvent, l'homme essaye de trouver d'abord sa solution dans la loi. Et on prend la Bible et on essaye de l'appliquer, on essaye de se faire des règles, on essaye de se dire justement, peut-être si je lis ma Bible ce matin et que je prie et que je fais ci et que je fais ça, peut-être je vais y arriver, mon cœur va enfin pouvoir s'alléger. Et je vais peut-être réussir à enlever cette culpabilité. On se met des règles, on se rajoute des choses et on se dit, et peut-être si je lis un chapitre, au moins aussi, et on cherche plein de choses, on cherche la solution la mieux pour pouvoir s'en sortir. Mais est-ce que la loi peut changer mon cœur? Est-ce que le fait de venir à l'église, le fait d'aller à l'étude biblique, le fait de faire plein de choses pour Dieu va changer quelque chose à mon cœur? Oui, non? Non. Qu'est-ce qui peut changer mon cœur? Et là, je vais vous donner la réponse, non pas dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament. Alors, dans Ézéchiel, au chapitre 36, on en parle déjà au début, dans le chapitre 11, mais on va prendre surtout au chapitre 36, les versets 22 à 32. Alors, je prends Christophe de court, mais je pense que ses talents sont là, et tantôt il m'a surpris déjà avec le texte, donc sinon je vais le prendre dans la mienne ici. Ah, waouh, il est formidable. Quelle jeunesse. C'est beau. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, tout à l'heure on a entendu la colère, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Que va faire le Seigneur? Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ce n'est pas une liberté comme on le pense. Je fais ce que je veux. Non, c'est la liberté de suivre ses ordonnances et de pratiquer ses lois. C'est cette liberté-là dans laquelle il veut nous faire entrer. Ça rejoint le texte de tout à l'heure. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le fruit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Amen. Qui change les cœurs ? Dieu lui-même. Et c'est pas parce qu'on est digne ou pas digne. C'est juste pour son nom. C'est juste pour qui il est. Qui veut changer nos cœurs. Qui veut nous purifier. Qui veut nous rassembler. Là où on avait des murs, il veut nous rassembler. Là où on s'était éloigné, il veut nous rassembler. C'est lui qui veut faire cette action. C'est vers lui que je dois aller. Et c'est pour ça que cette femme qui était censée mourir avait un espoir. Parce que Dieu lui-même était près d'elle. Était à côté d'elle. Et par son amour, par sa bonté envers elle. Vous voyez dans ce texte ce qui est intéressant, c'est qu'avant c'était « si tu fais ça, il y aura ça, si tu fais ça, il y aura ça ». Il y avait des règles, il y avait des lois. Mais ici on voit vraiment que quand Dieu agit, le fait de sa bonté, de son amour, révèle notre péché. C'est ce qu'il dit dans le texte. Il dit que à cause de tout ce qu'il va faire, on va se souvenir de tout ce qu'on faisait de mauvais et on va se sentir honteux. On va tout simplement se repentir. On va se sentir triste, sachant toute sa bonté, tout son amour, tout ce qu'il y a de plus pur en lui. Oh, je me sens sale. Je veux me laisser embarquer par lui. Je veux qu'il fasse quelque chose parce que je vois son action positive. Et donc moi-même, ce n'est pas en jugeant les autres, ce n'est pas en montrant du doigt, ce n'est pas en dénonçant tous les petits points qui ne vont pas. C'est en étant moi-même blanc que je vais dénoncer le noir. D'ailleurs, Jésus finira le texte que nous avons lu tout à l'heure comment, en disant « Je suis quoi ?» Je suis la lumière. Dieu qui est la lumière est tout simplement lui-même. Et en étant lui-même, il éclaire ce qui est obscur. Et il nous demande juste d'accepter cette lumière et d'être le reflet de cette lumière. Pour les autres. D'accepter son action. C'est lui qui veut changer nos cœurs. Moi, je ne peux rien faire. Moi, je ne sers à rien de gratter parce que mes mains sont sales. Donc, si j'essaye de frotter ce qui est sale en moi, je vais en même temps me salir encore plus. Donc, plus j'essaye de me frotter, plus je me salis. Parce que du sale amène du sale. Pour le moment, on a déménagé pendant cette semaine. Toute cette semaine, on était en déménagement. On avait les mains sales. On portait les cartons, on devait déplacer des trucs. Il y avait de la poussière, il y avait ci, il y avait ça. On était tout sales. Et si je me disais, oh mince, j'ai une tache sur mon pantalon et que je voulais frotter, c'était encore pire. Parce que j'étais encore plus sale. Je ne pouvais pas, qu'est-ce que je devais faire? Je devais aller me laver les mains au robinet, je devais dépendre. Vous vous souvenez de l'image de l'eau que je nous avais déjà fait la dernière fois? Cette eau qui coule et auquel je dois venir pour me rincer les mains, prendre peut-être du savon, ça dépend de l'extérieur. Me purifier même les mains dépend de l'extérieur. Et c'est la même chose à l'intérieur. Notre cœur dépend de cette source d'eau vive qui nous purifie et auquel je dois venir. De cette lumière qui éclaire nos situations. Et parfois nous sommes encore plus durs avec nous-mêmes qu'avec les autres. Nous sommes parfois encore plus ces juges avec nous-mêmes parce qu'on voudrait justement qu'il n'y ait aucune tâche. Et on se cherche des puces, comme on dit. Comme si on voulait atteindre une certaine perfection par nous-mêmes. Hein? Et on passe parfois plus de temps à essayer par nous-mêmes de détecter tout ce qui ne va pas plutôt que d'aller vers cette source. Et on perd du temps et de l'énergie et on se fatigue. D'ailleurs, Jésus dira, si vous êtes fatigué, venez à moi plutôt. Arrêtez d'essayer, venez à moi. Mon joug est doux et léger. On voudrait se nettoyer parfaitement avant de venir à Dieu. On voudrait presque se présenter à lui parfait. J'avais entendu une image dans une convention de jeunes. Je ne sais pas pour ceux qui étaient, ils l'ont sûrement entendu. Mais c'est comme si, avant de mettre les vêtements dans la machine à laver, on les lavait vite. Hein, vous imaginez? On lavait tous nos vêtements pour que ce soit le plus beau possible et puis on se dit, on va les mettre dans la machine pour ne pas salir la machine. Et on fait souvent ça avec Dieu. Hein, on voudrait se laver parfaitement avant de pouvoir venir à lui. Mais c'est lui qui nous purifie, c'est lui qui nous lave. On ne ferait pas ça avec une machine à laver, alors pourquoi on le fait avec Dieu? Allons tels que nous sommes et laissons-le nous purifier. Parce que sinon le danger c'est ça, et c'est ce que on finit par ne plus venir devant Dieu. Parce qu'on se rappelle plutôt toutes les taches noires, tout ce qu'on n'a pas fait qu'il faudrait qu'on fasse et qu'on aurait dû faire, et tout ce qu'on aurait voulu faire pour lui plaire, etc. Et vous fatiguez, je ne sais pas si vous fatiguez comme ça, mais moi parfois je me fatigue comme ça et je perds beaucoup de temps. On n'ose même plus rien entreprendre avec Dieu. On est paralysé, on est enchaîné par cette culpabilité, par toutes ces choses qui nous bloquent et qui nous tiennent. Et qui a gagné dans tout cela? Qui gagne dans tout ça? Exactement. C'est Satan. C'est Satan qui veut tout ça. C'est autant lui qui nous accuse, c'est autant lui qui nous retient, c'est autant lui qui envoie le péché, qui a fait que tout ça s'affoire. C'est lui qui est derrière tout ça. Et il a l'art et la manière pour nous faire tomber, pour nous accuser par derrière. Et c'est lui qui est derrière ces pensées qui viennent très dures et qui endurcissent nos cœurs. Il veut nous éloigner de Dieu et nous éloigner les uns des autres. Qui est vraiment ces murs qui se forment. Et en parlant de Pierre, je voulais vous laisser un exemple de comment Jésus fonctionne justement. On a eu l'exemple ici de cette femme qui est en adultère, mais Pierre lui-même s'est éloigné de Jésus à 3 reprises. À 3 reprises, vous vous souvenez, je ne vais pas raconter l'histoire du reniement de Pierre, mais Pierre qui était si fougueux pour Jésus, à 3 reprises l'a renié, ne l'a pas reconnu. Et là aussi, il devait se sentir coupable, se sentir mal, parce que Jésus en plus l'avait prévenu. Vous imaginez, Jésus le prévient qu'il va le faire et il le fait. Donc c'est doublement plus dur. Et pourtant, on peut lire dans Jean chapitre 21, les versets 15 à 22. Je vais encore embêter Christophe. Je le challenge là, le défi là. Jean chapitre 21, les versets 15 à 22. On voit comment Jésus vient à lui. Est-ce que Jésus qui l'avait prévenu, il avait toutes les raisons de lui faire des reproches. Il pouvait venir et lui dire, mais tu sais, je t'avais prévenu. Et en plus, tu ne l'as pas fait qu'une fois, tu l'as fait 3 fois. T'as pas honte? Nous, on viendrait sûrement comme ça. Hein. Imaginez-vous, vous avez prévenu quelqu'un, il fait 3 fois une connerie, et vous venez le voir et vous lui dites quoi. Vous avez toutes les raisons. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fonctionne souvent avec des enfants. On met les limites, et puis ils se trompent, 1, 2, 3, et souvent la 3e fois, c'est là qu'il y a la punition. Quoi. Hein, c'est comme ça qu'on fonctionne en général. Et voilà qu'est-ce qui se passe. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu ?» Et lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus, avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Que voyons-nous dans ce texte? Tu peux laisser. Nous voyons que Jésus ne vient pas avec un regard accusateur, mais vient plutôt interroger quoi? Son cœur. Alors je ne vais pas aller dans le grec comme on le fait souvent quand il y a ce texte pour dire qu'il y a différents degrés d'amour, mais tout simplement montrer la démarche de Jésus, une démarche d'amour qui vient juste interpeller. Mais au final, comment tu m'aimes? Comment tu m'aimes? C'est ça qui est important pour Jésus. Comment est-ce que tu m'aimes? Et au final, Pierre va devoir confesser. Tu connais mon cœur. Tu sais comment je t'aime au final. Mais c'est pas ça qui va empêcher Jésus de l'engager en disant maintenant, suis-moi. Jésus ne cherche pas des cœurs parfaits, ne cherche pas les meilleurs. Il cherche des gens qui vont le suivre. tout simplement, qui vont laisser son amour à lui grandir en nous, grandir dans nos cœurs, et c'est cet amour qui va commencer à changer, transformer nos cœurs. Et même, c'est intéressant de voir la fin, c'est pour ça que j'ai laissé la fin, Pierre lui-même, quand il y a Jean qui va arriver, c'est Jean qui est là derrière et va se demander, mais lui, de nouveau un regard sur l'autre. Et lui, qu'est-ce que tu vas faire de lui? Peut-être, je sais pas, il dit, en plus il dit, lui qui aimait Jésus. Peut-être il sent pas au même niveau, peut-être qu'il sent qu'il y a plus d'amour au niveau de Jean, et lui vient de se faire interroger sur l'amour qu'il portait à Jésus, peut-être il se sent en porte-à-faux, alors il se demandait, lui, est-ce que j'ai Jésus? T'inquiète pas de lui, inquiète-toi de toi. Toi, suis-moi. Et ce que j'aimerais juste nous laisser comme un peu appel, c'est arrêtons de nous occuper des uns des autres, mais toi, sois une lumière. Toi, suis-le. Occupe-toi de ton cœur. Et si toi, tu brilles, le noir autour va s'éclairer. Il n'y a même pas besoin de le dire. Si toi, tu pries au milieu du culte, tous ceux qui ne prient pas vont se sentir, oh, ils prient. Si toi, tu lis ta Bible, tu dis, ah, moi, ce matin, j'ai lu ma Bible. Tous ceux qui ne l'ont pas lu vont se sentir mal parce qu'ils ne l'ont pas lu. Ce n'est pas que tu les accuses, mais c'est que le fait que toi, tu le fais, ils se sentent mal. Moi, j'ai été parler à quelqu'un de Jésus tout à l'heure, je lui ai parlé, et on sent qu'il y a un intérêt. Oh, mince, toutes les personnes que moi, je n'ai pas parlé aujourd'hui. Vous voyez, si moi, je le fais, si moi, je m'occupe de son œuvre, si moi, je rentre dedans, si moi, je fais mon truc, je fais ma louange, les autres vont être interpellés, je vais les tirer vers Dieu. Parce que moi, je suis en train de le suivre. Peu importe si eux le font ou pas. Et c'est par l'exemple. Et Jésus a toujours fonctionné comme ça. Même avec cette dame, cette femme. Il a montré l'exemple. Au final, il a juste dit, toi, fais la même chose. Ne pêche plus. Il lui a dit quand même. Mais il l'a invité dans ce chemin de liberté à faire la volonté de Dieu et être une lumière. Pierre l'a malgré tout abandonné dans des moments difficiles parce que Jésus avait besoin de lui. C'était aussi un temps difficile pour Jésus. Il allait vers la mort. Il avait besoin peut-être de ses disciples d'être entouré. Il se sent abandonné. Et il aurait pu arriver avec des reproches, on l'a vu. Je vais avancer ici. Mais ça pose la question aussi à nous-mêmes, de où en es-tu dans ton cœur? Et est-ce que tu es prêt à le suivre? Peu importe ce que font les autres. Et être cette lumière pour lui. J'aimerais juste amener, pour conclure, une image. J'ai ma petite boîte ici. C'est l'image que je laisse. J'ai essayé d'écrire quelque chose vite fait avant. De la part de la vie. Alors je disais tout à l'heure à quelqu'un qui se questionnait sur moi, je dis c'est vrai que parfois la vie, on dit souvent qu'elle ne fait pas de cadeaux. C'est une expression. Ben là, elle en fait quand même des cadeaux, la vie. Peu importe lesquels, et c'est ce que j'aimerais juste nous laisser, c'est que pourquoi au final notre cœur il s'endurcit? Pourquoi le cœur il devient dur souvent? C'est parce que un jour le péché il est rentré dans cette vie, dans nos vies. Il est rentré chez Adam, mais il est arrivé dans chacune de nos vies. Et souvent en tant qu'homme sans Dieu, tout ce que nous savons offrir aux autres dans la vie, c'est ce qu'il y a dans nos cœurs. On offre ça aux autres. Des attitudes dures, des paroles dures, on s'endurcit parce que l'homme est un loup pour l'homme. Vous voyez toutes ces pensées qui sont là. Et le fait de s'endurcir, on endurcit les autres et on s'endurcit les uns contre les autres. Et on devient de plus en plus dur. Et on devient nous-mêmes durs, comme de la pierre. Et au final, on se rend compte, c'est parce qu'on a reçu de la vie, souvent des coups durs, des difficultés. Et c'est ça qui a amené ce cœur si dur et que nous, on continue ça. Souvent, même si on prend le cas des parents, quand nos parents ont été durs avec nous, on devient des parents durs, parce que c'est ce qu'on a connu. Et j'ai rien trouvé d'autre, donc vous excuserez l'image. J'ai trouvé ça dans la voiture en venant. Je trouvais pas d'autre truc. C'est le déménagement, j'avais pas le choix. Que représente ceci? C'est que la pierre, elle conduit à quoi, en général? Des cœurs durs. Et une pierre, ça conduit à quoi, en final? Quel était le destin si les pierres avaient agi dans cette histoire de la femme adultère? La mort. Des cœurs durs conduisent à la mort. Mais ici, nous voyons, on enlève le sport, j'ai pas réussi à l'effacer, mais des paroles de vie. Lorsqu'on reçoit des paroles de vie, elles produisent la vie. Et la parole de Dieu, c'est justement cette parole de vie. Et tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé l'image aussi, c'est vrai que c'est très difficile, mais l'importance du silence pour pouvoir entendre ces paroles de vie. Parce que parfois, même en priant, on a des paroles dures avec nous-mêmes. Hein, quand on se lamente, c'est souvent parce qu'on est dur avec nous-mêmes. Donc on se jette des pierres soi-même dans notre prière presque parfois. On se fait mal nous-mêmes, on se fait du mal en priant. Alors que si on écoute, Dieu lui va pas nous jeter des pierres, il va nous apporter la vie. Et lorsqu'on commence à recevoir et accepter des paroles de vie, on peut nous-mêmes être porteurs de vie. Et si cette boîte représente nos cœurs, en fonction de ce qu'on a reçu dans la vie, on pourra soit seulement donner des pierres, soit donner la vie. Ça va dépendre de ce qu'on reçoit, et ça vient de l'extérieur. Si je ne fais qu'écouter l'ennemi, la société, tout ce qu'il y a autour de moi, je risque d'être dur et d'amener du dur. Si je laisse la vie rentrer en moi et que je l'écoute, je serai porteur de vie. Mais n'oubliez jamais, les deux sont en moi. Donc plus je vais accepter de recevoir ceci, plus ça va prendre la place. Et moins il y aura de pierres. Et en plus, il a dit qu'il est prêt à nous libérer de ces pierres, à nous en délivrer. Et ce qui est chouette aussi, c'est bien, c'est que c'est des chewing-gums, et ça donne des paroles très fraîches. Vous retiendrez ça.